Ça fait du bien d'être dans la présence de Dieu. Et comme on l'a vu ce matin, même qu'on sait que le Saint-Esprit est là, des fois c'est pas facile, des fois on aimerait tellement le sentir. Et des fois on se rend compte, mais il faut qu'on perce là, il faut qu'on perce. Parce qu'on attend quelque chose. On attend d'être recouvert par l'onction du Seigneur. On attend d'être revêtu, on attend un peu le frisson, mais on attend aussi ce moment particulier où on est tous tellement unis dans sa présence, où il y a quelqu'un qui commence à avoir un songe ou des visions et on s'encourage les uns avec les autres. Puis quand ça vient pas, bon, on se dit que le Saint-Esprit n'est pas là. Mais c'est une fausse compréhension. Alors rassurez-vous, le Saint-Esprit n'est pas déversé sur une élite. Eh ouais. La puissance du Saint-Esprit n'est pas réservée à un petit groupe de serviteurs de Dieu triés sur le volet. Le Saint-Esprit, il a été déversé sur son Église pour que chacun de ses membres soit un témoin véritable de Jésus-Christ. En fait, le Saint-Esprit ne nous est pas donné comme une faveur. Ne vous dites pas, mais en fait, moi, je suis un peu insignifiant, moi, je suis à tel endroit de ma vie, donc en fait, il voudra jamais me donner son onction, ou je ne serai pas baptisé, ou alors j'aurai pas sa puissance. C'est pas comme ça que ça marche. Le Saint-Esprit, c'est pas une faveur. Le Saint-Esprit, c'est une nécessité, mais c'est la décision de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit parce qu'il a besoin de nous et il ne peut pas travailler avec nous si on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Alors vous allez me dire, mais Dieu n'a besoin de personne. Dieu se suffit à lui-même. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? C'est vrai. Dieu se suffit à lui-même. Mais il a fait quelque chose il y a longtemps. Il a choisi de travailler avec nous. Il a choisi d'œuvrer au travers de nous. Il a choisi de déverser sa puissance sur la terre au travers de nous. Et ça, ça commence il y a longtemps, dans les premières pages de vos Bibles, dans la Genèse, au chapitre 1. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. Et il crée toute la création, tout l'environnement dans lequel nous vivons tous les jours. Mais il crée l'homme et la femme. Et dans Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa, l'homme et la femme. Dieu, il nous a créés à son image. Et ça, c'est déjà un premier mandat. Ça veut dire que sur la terre, nous sommes le reflet de l'image de Dieu. Et ça, c'est un témoignage. Et nous avons besoin de la puissance de Dieu pour rendre témoignage, pour que nous fassions la différence. Parce qu'il y a plein d'êtres humains sur la terre qui ne reflètent pas l'image de Dieu. Mais nous, on doit refléter l'image de Dieu. Et au moment où Dieu a créé l'homme et la femme, c'était le début de l'humanité. L'humanité était image de Dieu. C'est le mandat de l'humanité, pas d'une élite. Et en plus de ça, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il leur a donné un mandat. Dans Genèse 2,15, par exemple. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Dans Genèse 1 aussi, quand il a créé l'homme et la femme, il dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal, etc. » Le Seigneur nous a donné un mandat, il a donné un mandat à l'humanité de gérer sa création, de la cultiver, de la garder, c'est-à-dire d'en prendre soin, c'est-à-dire de la faire fructifier, de faire en sorte que tout ce qui cohabite bien ensemble et s'épanouisse et que ensemble ils se fortifient, que ensemble ils multiplient. Mais la chute. Adam et Ève décident de donner leur soumission à Satan. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ils se séparent de Dieu et le Saint-Esprit qui était dans Adam et Ève se retire. Et l'être humain, l'humanité entière, se retrouve dépourvue de la présence de Dieu, dépourvue du Saint-Esprit. Dieu est là, Dieu existe, et Dieu donne sa providence pour que la terre continue de tourner. Mais avec quelle difficulté? Avec quelle difficulté? Jusqu'au jour où il appelle un Abraham, jusqu'au jour où il appelle un Moïse, jusqu'au jour où il appelle un David, jusqu'au jour où il appelle des prophètes, jusqu'au jour où Jésus, Dieu, s'incarne et vient sur la terre. Et là, il y a quelque chose qui commence à changer. Mais jusque-là, le Saint-Esprit n'est plus dans l'homme. La puissance du Saint-Esprit n'est plus dans l'homme. Il y a juste la puissance de vie, il y a juste le souffle de vie, juste le nécessaire vital pour que l'homme vive. Pourtant, ce mandat de s'occuper de la terre, eh bien, il est toujours présent. Il n'a pas changé. Et ce mandat de refléter Dieu, il est toujours présent, il n'a pas changé. La chute n'a rien effacé de tout ça. Ça veut dire que être témoin, ça continue. Et quand Jésus est là, juste avant de quitter ses disciples, on l'a vu dimanche passé, Jésus leur rappelle leur mandat. On le voit dans Luc 24, le dernier chapitre de Luc, où Jésus leur explique que c'était bien écrit que le Christ devrait souffrir, qu'il devrait mourir et ressusciter, et que la repentance, le pardon des péchés serait prêché à toutes les nations. Et il dit, vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Vous êtes mes témoins, vous êtes témoins de ces choses, mais attendez la puissance d'en haut. Et si on reprend dans Actes, c'est le deuxième livre que Luc a écrit. C'est la suite de l'évangile de Luc. Acte 1, chapitre 8. Il rappelle cette histoire que Jésus a dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Quand Jésus dit, vous êtes témoins parce que vous avez vu, vous avez constaté, vous avez expérimenté, mais vous êtes témoins parce que vous devez maintenant refléter cette réalité, vous devez témoigner. Quand Jésus parle de ce témoignage, il parle aussi de la puissance. C'est indissociable. Le témoignage ne peut se faire qu'avec la puissance du Saint-Esprit. On ne peut pas témoigner sans puissance. La puissance s'exerce par le Saint-Esprit. La puissance du témoignage se manifeste, se concrétise, vient à la réalité par le Saint-Esprit. Encore faut-il comprendre, mais maintenant, de quel témoignage s'agit-il? Moi, je peux vous témoigner, hein. Bonjour, je m'appelle Florence, je suis née dans une famille chrétienne. J'ai fait des camps de la Ligue depuis l'âge de 9 ans. Et puis j'ai toujours aimé le Seigneur. Et puis dans les années 1992, je crois, je me suis fait baptiser. J'ai reçu le don du Saint-Esprit. Et puis maintenant, je fais une école de théologie. Puis en même temps, je suis pasteur. J'ai témoigné. Ça vous a pas transformé? Il y a pas un bruit. Oh là là. Ça, c'est un témoignage historique. Il est pas faux, mon témoignage. Un petit peu raccourci, mais il n'est pas faux, c'est un témoignage historique. C'est pas de ce témoignage-là dont il est question, c'est pas raconter sa vie, c'est pas raconter sa conversion, peut-être. Mais avec l'action du Saint-Esprit, c'est raconter, mais j'étais dans cet état-là, et à un moment donné, j'ai eu une révélation, ou à un moment donné, quelqu'un m'a dit ça, ça a tellement touché mon cœur que ça m'a bouleversée, et moi j'ai décidé que, et maintenant ma vie est autrement. Et quand vous commencez à raconter ce que le Seigneur a transformé en vous, vous êtes en train de témoigner de l'œuvre du Saint-Esprit en vous. Et ça, ça touche les gens. Parce que ça peut leur dire, waouh, je sais pas si c'est vrai, mais moi je l'ai connu avant et je le vois maintenant. Les gens y voient les différences, les gens y voient ce qui a changé. Et il y en a d'autres qui se disent, waouh, j'aimerais la même chose. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui convainc les cœurs. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui travaille et qui déverse sa puissance au travers de nous. Le témoignage, il est important. Alors, regardons ce qui s'est passé pour les disciples. Les disciples, ils étaient avec Jésus et Jésus leur dit, vous êtes mes témoins, mais attendez cette puissance. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont 120, ils vont dans la chambre haute, ils se mettent à prier. Est-ce qu'ils demandent le Saint-Esprit? On ne le sait pas, parce qu'on ne sait même pas jusqu'où ils avaient compris l'histoire. Mais par contre, ils avaient compris que Jésus était monté au ciel. Il y a un élément majeur qu'ils avaient compris, que Jésus ressuscité, vivant, est monté au ciel, et que là, il y régnait. Jusqu'au jour où il allait revenir. Donc les disciples, à mon avis, ils ont repris la parole puisque Jésus avait ouvert leur intelligence et ils ont commencé à chanter des psaumes, à prier, puis à regarder en se disant mais ce qui est écrit dans ce psaume, dans le psaume 110, que Jésus serait élevé à la droite de Dieu, mais c'est ce qui est en train de se passer. On en est témoin, il est monté au ciel, on l'a vu. Et ils sont en train de se réjouir, de bénir le Seigneur pour ça. Et tout à coup, un vent violent dans la pièce, et comme des langues de feu, se déposent sur chacun d'eux. Ils se mettent tous à parler une langue qu'ils ne connaissent pas. Et dans cette langue qu'ils ne connaissent pas, ils disent les merveilles de Dieu. Ça fait tellement de bruit. Ça fait un tel tumulte dans la ville que tous les Juifs qui sont là, qui étaient là en pèlerinage, c'est la fête de la Pentecôte, des Juifs de la diaspora, d'autres nations qui parlent d'autres langues, ils viennent regarder ce qui se passe et ils constatent que tous ces gens racontent les merveilles de Dieu dans leur propre langue. Alors certains, ils posent des questions, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Je vous lis dans Actes 2, le verset 12. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Mais que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Et ça, c'est un élément, c'est la petite parenthèse qu'il faut savoir. Tu peux être rempli du Saint-Esprit, parler à des gens, et les gens ne sont pas remplis, ne sont pas touchés, ne sont pas transformés, parce qu'il y aura toujours des gens qui vont résister. On a le choix. Il y a des gens qui seront étonnés. Et il y a des gens, quand ils vont recevoir l'explication, ils vont se dire, « Waouh, c'était ça, je le veux. » Les gens sont donc étonnés. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Et à ce moment-là, Pierre, lui, tout à coup, c'est la révélation. Il dit, mais j'ai compris. Et il cite le prophète Joël. Et voilà ce qu'il dit. Donc Joël 2, les versets 28 à 32. Pour certains, vous avez une autre numérotation. Mais voilà ce qu'il dit. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci. Et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour, 9 heures du matin. Mais c'est ici ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pierre est en train de comprendre. Nous sommes entrés dans les derniers jours. Alors c'est vrai, la lune n'est encore pas transformée en sang, etc. Parce que souvent dans les prophéties, presque chaque fois dans les prophéties de l'Ancien Testament, la prophétie, elle concerne un élément proche, ou plus ou moins proche, et un élément lointain. Et très souvent, l'élément lointain, c'est la restauration d'Israël, c'est la restauration de Jérusalem, c'est le jour du jugement, c'est le jour de l'enlèvement, c'est le jour où Jésus vient restaurer la terre et les cieux, toute sa création. Alors dans cette prophétie-là, il y a deux événements. Il y a cet événement des derniers jours qui commence au moment où Jésus est venu sur la terre instaurer son royaume. Il a déjà donné toute l'éthique du royaume, tout le code civil du royaume de Dieu. Et ensuite, il monte au ciel, il est intronisé, il s'assied à la droite de Dieu, il reçoit la domination, la puissance, le pouvoir, l'autorité. Et là, on entre dans les derniers jours, les jours du règne de Jésus sur la terre, en attendant son règne définitif, quand nous serons transformés. Mais ces derniers jours, ça fait 2000 ans que nous y sommes. Nous sommes dans les derniers jours où Jésus est en train de régner, depuis les cieux. Mais puisque c'est depuis les cieux, il règne au travers de ceux qui le suivent. Ça n'est plus au travers de l'humanité, c'est au travers de ceux qui lui ont dit oui. C'est à travers de ceux qui lui appartiennent, de ses disciples, de ses suiveurs. Si vous êtes là, c'est au travers de vous, de chacun d'entre nous. Et ce qui est tellement important, voilà ce qu'il dit, « Vos fils et vos filles prophétiseront, hommes, femmes, garçons, filles. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Jeunes, vieux, c'est pas une question de genre, c'est pas une question de statut social, c'est pas une question d'âge, c'est pas une question de maturité spirituelle. On peut recevoir le Saint-Esprit le jour de sa conversion quand on n'y connaît encore rien du tout. Ceux qui suivent le Seigneur ont tous droit au Saint-Esprit parce que Jésus veut agir au travers de nos vies pour son royaume. Alors c'est pas un privilège, mes amis. Donc, rassurez-vous, c'est pas pour une élite, c'est pour chacun d'entre nous. Et maintenant, il reste à comprendre, mais c'est quoi ce règne? Quel est ce règne? Alors déjà, reprenons. Pierre, il a compris. Quand il cite le prophète Joël, il s'arrête pas là. Ensuite, il continue. Il est en train d'expliquer ce qui s'est passé avec Jésus. Et dans Acte 2, à partir du verset 32, il dit « C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. » Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Pierre a compris que Jésus, maintenant, il est à la droite de Dieu et que c'est lui qui règne. Alors c'est quoi ce règne? On l'a vu la dernière fois, Jésus, il règne dans sa session, le fait d'être assis. Le fait de siéger comme un juge ou d'être assis sur le trône, Jésus, il est sur le trône de la majesté divine, de la majesté royale, en tant que roi des rois. Et là, il exerce ses trois offices ou ses trois fonctions, ses trois mandats qui étaient déjà reflétés dans l'Ancien Testament, celui de sacrificateur, celui de prophète et celui de roi. Jésus, au ciel, il est tout ça. Mais puisqu'il travaille au travers de nous, ça veut dire que nous aussi, nous sommes sacrificateurs, prophètes et rois, que nous exerçons la sacrificature, la prophétie, la royauté. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? On a déjà parlé de la sacrificature un petit peu la semaine passée. Jésus qui est le souverain sacrificateur, le sacrificateur principal. Jésus, le médiateur entre Dieu et nous. C'est par lui qu'on peut prier pour avoir accès au Père. Jésus, en tant que sacrificateur et que sacrifice, il s'est présenté devant Dieu. Et il intercède pour nous. Il intercède pour ceux qui doivent se convertir, qui doivent hériter du salut. Et il intercède pour nous subvenir à nos besoins, nous secourir dans nos besoins. Mais nous, en tant que sacrificateurs, nous devons aussi présenter quelque chose devant Dieu. Romains 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En tant que sacrificateurs, nous avons à nous offrir toute notre personne, tout notre témoignage de vie, comme un sacrifice vivant. Et que fait le Seigneur pour qu'on puisse le faire, parce que tout seul on n'y arrive pas? Il nous renouvelle par son Saint-Esprit, il renouvelle notre intelligence, il renouvelle notre entendement, il nous donne du discernement. Mais si vous allez lire aussi dans Galates, il nous donne le fruit de l'Esprit. Galates 6, le fruit de l'Esprit, c'est tellement connu. Mais le fruit de l'Esprit, Galates 6, 22, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ces choses-là, c'est ce que le Seigneur, petit à petit, par son Saint-Esprit, est en train de mettre en nous. Il nous transforme. Il nous transforme à son image pour que nous reflétions l'amour de Dieu, pour que nous reflétions la joie de Dieu, pour que dans une situation où logiquement on devrait être irrité et en colère, on déploie la douceur, on change l'atmosphère. C'est le Saint-Esprit qui fait ça au travers de nous. Et pour ça, il n'y a pas besoin de sentir la puissante onction. Je suis sous l'onction et pas d'attrage, je peux faire tout ce que je veux. Non. Mais parce que l'action du Saint-Esprit a changé mon intérieur et qu'il le fait encore. Dans toute situation, je reflète mon Seigneur. Je reflète son royaume. Je reflète sa justice. Je reflète sa paix. Je reflète son pardon. Parce que moi-même, je suis transformée à l'intérieur. Et cette transformation, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Et ça, ça touche à la sacrificature de Jésus. Et notre sacrifice, c'est de nous présenter devant Dieu et de crier à l'aide. Seigneur, j'arrive pas à aimer. Seigneur, je me mets toujours en colère. Seigneur, j'aimerais avoir de la douceur et c'est pas ça qui sort de ma bouche. Les exemples, vous en avez, vous savez ce qui vous concerne. Soyez un sacrificateur et allez déposer ça devant le Seigneur. Et appelez son Saint-Esprit pour qu'il vienne changer en mettant ses fruits à lui en vous. Et c'est ce qu'il fait, c'est notre parcours de vie. Ça, c'est déjà refléter Jésus, c'est déjà être témoin et être témoin de sa sacrificature. Offrir notre adoration à Dieu. Hébreux 13, verset 15. Ça, c'est le verset préféré de mon mari. Par lui, Jésus-Christ, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, le fruit de lèvres qui confesse son nom. Par lui, par Jésus-Christ. Comment, Jésus étant au ciel, comment, par Jésus, est-ce que mes lèvres peuvent offrir une adoration, une louange? Comment? Par son Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit que Jésus déverse, qui se déverse en moi et qui fait que l'élan de mon cœur fait sortir des paroles de louange et d'adoration de ma bouche. Par Jésus, ça veut dire par son Saint-Esprit, parce que c'est par son Saint-Esprit que Jésus agit. Mais il y a aussi la prophétie. Qu'est-ce qu'ils faisaient les prophètes au temps de l'Ancien Testament? Les prophètes, c'est des hommes qui avaient une voix prophétique. C'est des hommes qui donnaient de la voix. Et qu'est-ce qu'ils disaient? C'était quoi leur mandat? La plupart du temps, c'était d'avertir. C'était de ramener le peuple vers le Seigneur. C'était d'exhorter à la repentance. C'était de ramener le troupeau dans le droit chemin. C'était d'avertir ceux qui s'étaient égarés. C'était d'annoncer, mais si tu continues dans cette mauvaise voie, voilà ce qui va t'arriver. Je monte ou je monte pas? Je vais à la bataille ou je ne vais pas à la bataille? Vas-y, c'est dans la volonté de Dieu, vas-y. Ou alors, non, n'y va pas. Si tu y vas, tu vas avoir une grande perte. Et on le voit, ceux qui y sont allés quand même, ils ont subi une grande perte. Le prophète, il est là pour ramener dans le droit chemin. Il est là pour diriger, il est là pour exhorter. Et nous devons être prophètes. Nous avons un mandat auprès de nos frères et sœurs, mais aussi auprès de la population qui ne connaît pas Dieu. Nous avons une voix prophétique. Au sein de l'Église, au sein d'un culte par exemple, cette voix prophétique, elle peut se manifester par une parole de sagesse. On peut avoir un temps de louange et quelqu'un reçoit quelque chose de fort dans son cœur, c'est déjà arrivé dans l'Église. Et il prend la parole, il dit « Je sens qu'il y a quelqu'un qui est en train de traverser telle situation » et le Seigneur lui dit telle chose. Ou une parole de connaissance. Ou quand tu pries avec quelqu'un, simplement à deux, un moment de prière et tout à coup tu dis « J'ai l'impression que… » Et la personne, ça la touche. Parce que ça, c'est le Saint-Esprit qui agit. Ça, c'est la façon d'être un témoin prophétique. Ça peut être donner un conseil. Et ça, c'est délicat. C'est vraiment délicat de donner des conseils aux gens. Parce qu'on peut faire du tort. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, ton conseil, il peut changer la vie de quelqu'un. Ton conseil, il peut sortir la personne de la fosse et remettre ses pieds sur le roc. Il n'y a pas besoin de sentir une puissante onction ou quelque chose, un état second. Mais parce que tu es rempli, le Seigneur t'éclaire, il te donne le discernement. Ça, c'est ta voix prophétique. Et elle est pour chacun d'entre nous. La voix prophétique, elle peut être nécessaire pour aller parler à nos autorités. Et dans le canton, il y a quelqu'un qui le fait, d'une certaine manière. Si nous pouvons chanter aujourd'hui, bien sûr, c'est parce que le Conseil fédéral a dit « maintenant, on peut chanter ». Mais il se trouve que les cantons peuvent décider. Est-ce que oui, est-ce que non? Eh bien, il y a une personne dans le canton, une personne qui est pasteur, qui fait partie de la FEN, qui fait partie de la Fédération des Églises Neuchâteloises, qui est allée rencontrer les bonnes personnes, nos autorités, et en ayant des partages intelligents, en faisant confiance à l'intelligence du politicien qui ne croit pas en Dieu, mais qui a une honnêteté intellectuelle, il lui explique l'importance de l'Église. C'est pour ça aussi qu'on a pu être à 50 personnes depuis que les rassemblements religieux sont autorisés à 50 personnes. Il y a des cantons, ils les ont pas admis. Il y a des cantons qui n'ont pas admis les cellules de maison ou alors les groupes de jeunes ou les rencontres de prière dans la semaine. Parce qu'ils se sont dit « cérémonie religieuse, c'est le culte, point barre ». Mais parce que des gens sont allés faire entendre une voix prophétique, intelligente et remplie du Seigneur, sans jugement, sans accusation, mais en faisant appel à cette intelligence, à l'honnêteté de cette personne, il a obtenu que dans le canton de Neuchâtel, oui, on peut chanter, oui, on peut se réunir à 50, oui, la vie d'église, elle continue. Et ça, nous sommes tous appelés à le faire. À notre niveau, dans la sphère qui nous est confié. Il faut faire juste attention à la forme. Dernièrement, j'ai reçu une vidéo par rapport au conflit qui se passe en Israël, bande de Gaza. J'ai des vidéos, en fait, j'en ai reçu beaucoup. Les vidéos, ça y va, ça y va. Je vous avoue que j'ai pas tout regardé, mais celle-là, elle m'a marquée. C'est une personne qui est d'une pertinence. C'est une personne qui vit en Israël, qui est israélien. Et c'est une personne qui explique ce conflit. et qui dit des choses tellement intéressantes, tellement pertinentes, et qui se positionne aussi en faveur des habitants de Gaza, des Palestiniens, en expliquant qu'ils cohabitent ensemble et que ces personnes souffrent, non pas d'Israël, mais du Hamas, des extrémistes islamistes. Et il explique le conflit, il explique l'origine, il explique tous les dessous de ce qui est en train de se passer, tout ce que les journalistes ne veulent surtout pas dire, tout ce qui est caché, tout ce qui est même des fois ignoré. Et il explique tout ça d'une façon limpide. J'écoutais ça, je me dis, waouh, ouais, c'est ça que nos politiques, que les autorités doivent entendre. C'est ça que les journalistes doivent entendre. Mais le problème, c'est que je ne ressens pas l'onction du Saint-Esprit. Parce que ce que je ressens dans sa voix, et c'est pas un jugement, je suis pas à sa place, je ne le juge pas, et même je comprends ce qu'il vit. Mais ce que je ressens, c'est de l'amertume. Et c'est de la hargne. Et il donne son message avec hargne et amertume. Et à cause de ça, même si tout ce qu'il dit, je ne changerai pas un mot de ce qu'il dit, je me sens pas de le diffuser. Parce que je me dis, ça va faire des dégâts. Mais si, rempli du Saint-Esprit, il avait dit la même chose, comme un journaliste, pas en caressant dans le sens du poil, le même discours, mais comme un journaliste, c'est factuel, t'expliques les choses, mais avec la puissance du Saint-Esprit, avec l'autorité, cette vidéo, on aurait pu la diffuser à large échelle. Et j'espère qu'il y aura des vidéos comme ça. J'espère qu'il y aura des vidéos qui disent les choses telles qu'elles sont, simplement pour mettre les gens en face de leurs responsabilités. Après, tu ne peux plus dire « je ne savais pas ». Mais quand tu as reçu le message, tu n'as pas été agressé par le message. Tu as été informé, ça a touché ton cœur et tu te dis « ah ouais, là on s'est planté, là il faut qu'on revoie notre copie ». Ça, c'est ce que le Saint-Esprit fait quand on a une voix prophétique pour aller s'adresser aux autorités. Alors, c'est peut-être pas nous ici à la Chaux-de-Fonds qui allons nous adresser à tous les décideurs de la planète, on est d'accord. Mais dans le principe, on a un message à faire passer et à le faire passer avec l'assistance du Saint-Esprit. Ça fait partie aussi de ce mandat prophétique, de donner de la voix. Pierre aussi, il a donné un message prophétique. Mais ça, c'était pour l'Église, pour qu'elle comprenne. Ce message prophétique pour aller dans la repentance. Et c'est quand il a expliqué tout ce que Joël a exprimé avec ce déversement du Saint-Esprit, après il continue. Il est rempli du Saint-Esprit, il n'a pas préparé son discours. Tout à coup, il comprend, tout s'éclaire, rempli du Saint-Esprit, il délivre son message et il dit, acte 2, à partir du verset 22, « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés, par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. » Parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi. » Et Pierre continue de témoigner, comme Jésus l'a dit, de la mort, de la résurrection, de l'élévation de Jésus. Et à la fin de son témoignage, après avoir entendu ce discours, ils furent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous ? » Parce que Pierre est rempli du Saint-Esprit pour raconter qu'est-ce qui s'est passé, le message de la croix, les gens sont touchés. Ça, c'est la voix prophétique. Et il leur dit, repentez-vous et soyez remplis du Saint-Esprit. Et les gens se repentent et ils sont remplis du Saint-Esprit. Et Pierre, il continue. Il continue et un jour, il est avec Jean, il monte au temple et il arrive vers la belle porte. Et là, il y a un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il le regardait attentivement, s'attendait à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent, ni or, Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main, il le lève, ses pieds se raffermissent, et il se met à sauter, à bondir et à louer Dieu. Qu'est-ce que Pierre a fait là? C'est le troisième mandat, c'est la royauté. En quoi est-ce que le règne de Jésus se manifeste de cette manière-là? Comment est-ce que Pierre a pu être roi dans ce moment-là? C'était quoi le roi? C'était quoi le roi dans l'Ancien Testament? C'était quoi son rôle? Le roi, c'était le chef d'État. Ça veut dire que sa responsabilité, c'était de s'occuper du peuple, c'était de protéger le peuple. C'était de faire fructifier, de faire en sorte qu'il y ait de la nourriture pour le peuple. C'était de le protéger contre les ennemis. C'était de lui donner des terres. C'était de faire en sorte que le peuple prospère. Ça, c'était la responsabilité du roi. Et nous avons la même responsabilité. Nous avons une responsabilité envers notre entourage, ceux que le Seigneur nous a confiés, envers l'Église, envers notre société. Mais qu'est-ce que Jésus a dit quand il a commencé son ministère? Lui qui est le roi, il a dit « L'onction est sur moi » pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour délivrer les captifs, pour guérir les malades et ceux qui ont le cœur brisé, pour envoyer libres ceux qui sont opprimés, ceux qui sont prisonniers. Et ça, c'est aussi le mandat du roi. C'est de délivrer les captifs, c'est de délivrer le peuple. C'est de s'occuper du plus faible, de la veuve, de l'orphelin, de l'étranger. C'est le roi qui peut faire ça. C'est lui qui en a l'autorité. C'est lui qui a reçu la domination. C'est lui qui a reçu le pouvoir. C'est lui qui a reçu l'autorité de protéger. Alors quand nous nous mettons à prier, quand nous nous mettons à prier avec la puissance du Saint-Esprit, et qu'on commence à briser des liens, à briser des chaînes, on est prophète, oui, on est sacrificateur, mais on est roi. Parce qu'on le fait avec l'autorité du roi des rois, avec la puissance du roi des rois, avec la légitimité du roi des rois. Parce que c'est lui qui a la domination sur toute chose. C'est lui qui est élevé au-dessus de toute puissance, de tout nom qui peut être nommé, de toute dignité. Alors c'est au nom de notre roi que nous exerçons cette royauté en brisant les liens pour délivrer le peuple, pour délivrer les captifs. Avec la puissance du Saint-Esprit. Et quand on entre dans un temps de délivrance, les démons ils sortent parce qu'ils sont obligés de se soumettre à la royauté de Jésus-Christ. Non pas de la nôtre, mais de celle de Jésus-Christ, mais celle qu'il déploie au travers de nous. Et ça, tu peux le faire avec la personne quand tu es avec elle, mais tu peux le faire tout seul chez toi. Quand tu intercèdes pour un frère, une sœur, pour quelqu'un de ton entourage, et que tu commences à prendre autorité sur sa maladie et sur son corps, que tu ordonnes à son corps de guérir, quand tu es rempli du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, l'autorité de Jésus par le Saint-Esprit, fait son œuvre dans le corps de la personne. Et ça peut arriver même à distance. Ça, c'est quand tu es rempli du Saint-Esprit. C'est exercer la royauté. Jésus nous a dit, enfin Jésus, c'est avant Jésus, c'est plutôt le psalmiste nous a dit, psaume 91, le verset 13, « Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, sur le scorpion, tu marcheras sur l'ennemi, tu marcheras sur les difficultés. » Tu ne te laisseras pas écraser, c'est pas toi qui es dessous les pieds, c'est tes pieds qui écrasent les difficultés, c'est tes pieds qui écrasent l'ennemi, parce que Jésus est roi et que en ce moment même, il exerce sa royauté et il déverse sa puissance par le Saint-Esprit en toi, alors toi, tu as la puissance d'écraser l'ennemi. Dans Matthieu 18, au verset 18, il nous a aussi dit que ce que vous lirez sur la terre aura été lié dans le ciel. Ce que vous déliez sur la terre aura été délié dans le ciel. En vertu de quoi il nous dit ça? En vertu de son règne dans les cieux, où il a reçu toute autorité et il nous délègue cette autorité, ce pouvoir et cette puissance pour le faire. Exercer le règne de Dieu, c'est exercer la justice de Dieu. Et la justice, c'est une justice d'amour. C'est une justice de prendre soin. C'est dominer sur l'ennemi, mais jamais sur des gens. C'est aimer. Le Saint-Esprit n'est pas pour une élite. Le Saint-Esprit, il est pour chacun de nous. Nous avons tous besoin du Saint-Esprit. Il nous faut demander le Saint-Esprit pour qu'on puisse mieux comprendre ces trois fonctions que nous exerçons. Elles sont liées les unes aux autres. Tu peux pas non plus forcément dire « là, je suis complètement sacrificateur, là, je suis complètement prophète, là, je suis complètement roi. » Mais tu peux comprendre « je suis les trois en même temps. » Je suis les trois en même temps. Et ça se décline de telle manière. Pourquoi? Parce que, comme l'a rappelé André, Jésus est monté au ciel avec ses mains élevées, en bénissant les disciples. Et il n'est pas dit qu'il avait baissé ses mains. Comme si Jésus est encore au ciel, avec ses mains levées, et il regarde sa création, il regarde ses créatures, et il déverse sa puissance, et il déverse son esprit, pour que nous soyons prophètes, pour que nous soyons rois, et pour que nous soyons sacrificateurs. Ces trois fonctions, dans l'Ancien Testament, elles étaient des fonctions de médiateur. Le sacrificateur faisait le lien entre le peuple et Dieu. Le prophète parlait de la part de Dieu au peuple. Et le roi, devant Dieu, avait la responsabilité de la protection, de la délivrance, de la nourriture, de pourvoir au peuple. Maintenant, Jésus est notre médiateur, mais en quelque sorte, on est le médiateur de tous ceux qui ont besoin de l'action du Saint-Esprit dans leur vie. Nous pouvons tous avoir un accès direct au ciel, mais nous pouvons tous, à un moment donné, être médiateurs pour ceux qui sont dans la difficulté. Et c'est pour ça que nous avons besoin du Saint-Esprit. Alors demandons le Saint-Esprit, demandons l'onction du Saint-Esprit, et que si quelqu'un n'a encore jamais été baptisé du Saint-Esprit, qu'il demande le baptême du Saint-Esprit. Demandez-lui de pouvoir parler en langue. C'est tellement important. Je vous propose de... Ceux qui aimeraient recevoir le Saint-Esprit, ceux qui aimeraient une nouvelle portion du Saint-Esprit ou une nouvelle compréhension, ceux qui aimeraient vivre quelque chose de plus fort, de plus intense, ceux qui ont besoin d'être remplis du Saint-Esprit, je vous propose de vous lever. Seigneur Jésus, tu es souverainement élevé. Tu as maintenant tes bras étendus au-dessus de chacun d'entre nous. Merci Jésus, parce que tu as tes bras étendus pour déverser ta puissance, la puissance de ton Saint-Esprit. Tu règnes, tu as toute autorité, tu as reçu la domination, tu as reçu le pouvoir, tu as reçu l'autorité et tu as reçu le Saint-Esprit que tu déverses avec abondance, parce que c'est ta volonté que nous soyons remplis. Nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes, mais c'est ta volonté, c'est ta décision, c'est arrêté dans les cieux que nous devons être remplis de ton Saint-Esprit. Alors je te demande maintenant d'ouvrir les écluses des cieux et déverse-toi dans nos vies. Tu vois, Seigneur, chaque personne qui sont debout devant toi. Je te demande maintenant d'ouvrir leur cœur, ouvre leur âme, ouvre leur esprit. Touche-les, Seigneur, et remplis-les. Remplis-les jusqu'à la plénitude de ton Saint-Esprit. Je te demande de renouveler leur intelligence pour qu'ils comprennent dans la vie de tous les jours comment tu agis. Rappelle-leur chaque matin quand ils se lèvent de te dire bonjour et de te demander c'est quoi le programme de la journée. Et que ensuite, durant la journée, il puisse te dire qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je dis, comment tu veux toucher cette personne, comment tu veux que je témoigne. Saint-Esprit, aide-moi à prier. Jésus, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier avec ton Saint-Esprit. Remplis-nous, renouvelle-nous, chacun d'entre nous. Je te demande ton déversement. Tu vois les cœurs. Tu sais, Seigneur, la soif. Nous sommes comme une terre aride, desséchée, sans eau devant toi. Envoie-nous la pluie. Envoie la pluie de ta bénédiction par ton Saint-Esprit. Viens arroser notre terre. Viens arroser notre terre, Saint-Esprit. Déverse-toi encore. Apprends-nous à vivre avec toi. Apprends-nous à te faire de la place. Seigneur, les gens qui ne parlent pas encore en langue et qui le désirent, je te demande d'ouvrir leur bouche et qu'ils se mettent à parler en langue. Ceux qui n'ont encore pas été baptisés de toi, Saint-Esprit, qu'ils reçoivent ton baptême. Je te demande que ça arrive, que ce soit ce matin, que ce soit aujourd'hui, que ce soit cette nuit, dans la semaine qui vient. Seigneur, c'est toi qui es souverain, mais que ça arrive, que ça se manifeste. Je te demande que dans les temps qui viennent, il y ait des gens qui se fassent baptiser de toi, Saint-Esprit, et qu'ils puissent témoigner qu'ils ont reçu ton baptême. Je te demande que des gens qui ne parlaient pas encore en langue, même que peut-être certains avaient peur parce qu'ils ne savent pas ce que c'est, je te demande de les éclairer, qu'ils trouvent les réponses et qu'ils puissent témoigner, qu'ils parlent en langue. Libère, Seigneur, libère les langues, délie les langues, délie les cœurs, que toutes les craintes tombent en ton nom puissant, Jésus, et que tu remplisses, remplis les cœurs, remplis-nous, arrose notre terre, que nous soyons comme un réservoir qui a besoin d'être rempli jusqu'à la plénitude. Déverse-toi encore. Merci, Seigneur, parce que ton Saint-Esprit est inépuisable. Les écluses des cieux sont ouvertes et tu te déverses encore et tu arroses encore. Et tu arroses encore, viens pluie de Dieu, arrose notre terre, tu oins d'huile notre tête et notre coupe déborde. À toi la gloire, Jésus, à toi la gloire, fais de nous des sacrificateurs, fais de nous des prophètes, fais de nous des rois en l'honneur de ton nom, que nous soyons un témoin vivant par notre manière de vivre et par les paroles qui sortent de notre bouche. Et par nos prières et par nos actes. À toi la gloire, Jésus. Que ton règne vienne au travers de nos vies. Que ta volonté soit faite sur la terre au travers de nos vies. Par la puissance de ton Saint-Esprit. Que chacun soit rempli encore jusqu'à la plénitude. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom. Amen. Amen.